Je donne maintenant la parole à Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Ce matin, j'ai déposé au Conseil constitutionnel les 500 parrainages nécessaires pour assurer ma candidature. Je serai donc bien candidate dans cette élection présidentielle.
Le problème de cette société,
c'est que la majorité de la population ne peut survivre qu'en vendant sa force de travail, son intelligence, à une minorité capitaliste qui s'est appropriée toutes les richesses et tous les moyens de les produire. Protectionnisme, libre-échange, francs ou euros, le problème pour les travailleurs reste entier. Il s'agit toujours de se faire exploiter. Alors les travailleurs n'ont pas à se mêler de toutes ces discussions qui consistent à chercher la meilleure façon de s'en sortir pour la bourgeoisie. Et ce qui est commun d'ailleurs à toutes ces discussions, c'est qu'elles se passent toutes dans le cadre de l'économie capitaliste, comme si c'était un horizon indépassable. Et chaque candidat est sommé de faire la preuve que les mesures qu'il propose sont bien réalistes et qu'elles ne remettent pas en cause la viabilité des entreprises et les affaires. Et attention, il ne faut surtout pas gêner les plus riches. Et vous avez tous vu le cinéma qui a suivi la dernière annonce de Hollande concernant la taxation à 75% des revenus dépassant le 1 million d'euros. Cette annonce, qui n'a tout de même rien de bien audacieux, a suffi à la droite pour pousser des cris d'orfraie. Certains y ont vu la mort du football français et d'autres même l'écroulement de tout le système. Chaque candidat doit montrer une patte blanche. Il doit chiffrer son programme, démontrer que son programme ne remet pas en cause l'équilibre économique, qu'il est compatible avec la domination du marché, compatible avec les intérêts de la bourgeoisie, et bien sûr respectueux de la propriété privée capitaliste. Quand nous disons qu'il faut l'interdiction des licenciements, on nous oppose que ce n'est pas possible, que ce n'est pas réaliste, parce que cela risquerait de mettre les entreprises en difficulté. Mais les travailleurs, eux, quand ils se retrouvent sur le carreau, ils sont mis dans les pires difficultés. Ce sont les impayés qui s'accumulent, les découvertes bancaires, les agios, les menaces de coupure de téléphone, d'électricité. Et il faudrait qu'ils se débrouillent, qu'ils aillent au restaurant du cœur, qu'ils arrêtent de se soigner. Eh bien non, c'est leur vie, leur emploi et leur salaire qu'il faut préserver, d'abord et avant tout. De mettre en avant ces revendications vitales pour les travailleurs parce qu'ils craignent de gêner les affaires de la bourgeoisie. Alors il n'y a aucune raison de laisser dans cette élection le monopole de la parole à tous ceux qui n'imaginent rien d'autre qu'une politique favorable ou acceptable par la bourgeoisie. Il faut que dans cette élection se manifeste un courant politique qui se place du point de vue des travailleurs, du point de vue de ses intérêts vitaux et urgents et exclusivement de ce point de vue. Il faut que s'exprime un courant qui ne se soucie pas des intérêts de la bourgeoisie et qui mette en avant ce dont les travailleurs ont besoin, eux. Un courant qui affirme qu'il est vital, urgent, d'imposer et de contraindre la bourgeoisie à payer pour assurer et garantir les emplois, les salaires, les retraites, les services publics et ce, quoi qu'il en coûte à la bourgeoisie. Forcer les capitalistes à puiser dans les profits passés et même dans les fortunes privées accumulées au fil du temps. Regardez comment les plus riches hurlent à la mort dès qu'ils doivent payer un peu plus d'impôts. Dès qu'on touche à un de leurs cheveux, on les entend faire leur chantage. Ils savent se mobiliser, faire entendre leurs intérêts, sans se soucier le moins du monde de la majorité de la population. Eh bien, il faut que les travailleurs ne se laissent pas faire sans rien dire. Les travailleurs aussi doivent faire entendre leurs intérêts et être prêts au bras de fer avec la bourgeoisie. Être prêts, y compris, à dépasser les limites patronales, à dépasser le droit sacro-saint de la propriété capitaliste. Découdre avec le patronat. Parce qu'avec la crise, la lutte de classe devient de plus en plus violente. Confrontés à cette crise, Les capitalistes compensent leurs pertes en aggravant l'exploitation. Ce sont les cadences qui augmentent, les pressions pour en faire toujours plus, les minutes de pause volées, les heures supplémentaires qui sont oubliées sur les fiches de paye, les horaires de travail toujours plus dingues. Ce sont les accidents du travail qui sont maquillés en arrêt maladie. Ce sont les intérimaires et les stagiaires qui sont renvoyés du jour au lendemain et leur boulot qui retombe sur ceux qui restent. Tout est bon pour baisser la masse salariale, et à commencer bien sûr par les licenciements et les fermetures de sites. Faire la liste des groupes capitalistes qui ont licencié ou supprimé des emplois depuis 3 ans est impossible. Ils l'ont quasiment tous fait. En 3 ans, 900 usines ont fermé en France, une par jour. Et il y a eu 1 million de chômeurs supplémentaires. 1 million qui s'est ajouté aux 3 millions de femmes et d'hommes déjà privés de travail. Alors comment, après cela, être surpris que plus de 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et que les restaurants du cœur sont assaillis? Et tout ça pourquoi? Pour que les dividendes des actionnaires soient préservés, pour que les fortunes des plus riches soient garanties. Alors on nous dit que c'est la crise. Ça, personne ne peut le nier. Mais ce n'est pas la crise qui fait que le grand patronat s'en sort avec tous ses profits et que ce sont les travailleurs qui payent. Non, ça, c'est le résultat de la lutte de classe. Et beaucoup. Beaucoup s'étonnent que dans ce contexte, il n'y ait pas plus de réaction de la part des travailleurs. Mais la crise que nous vivons est souvent comparée à la crise mondiale de 1929. Eh bien, il faut se souvenir qu'il a fallu attendre 1934 aux États-Unis, 1936 en Espagne et en France pour que les travailleurs trouvent le chemin des luttes et de la grève générale. Il a fallu des années pour que les travailleurs passent de la résignation, du désespoir impuissant voire réactionnaire, à l'espoir d'inverser le cours des choses. Aujourd'hui, la matière explosive, eh bien, elle s'accumule dans la classe ouvrière. Et le moment de la révolte de millions de femmes et d'hommes viendra, tôt ou tard. Eh bien, il faut que dans cette révolte, les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent pourquoi se battre et comment faire pour inverser durablement le rapport de force avec la classe capitaliste. De Sarkozy, trouver le porte-parole idéal, le serviteur zélé. Un serviteur zélé qui s'emploie dans la campagne à s'adresser à son électorat, les petits et les grands privilégiés, pour qui les ouvriers et les fonctionnaires sont toujours trop bien payés pour ce qu'ils font. Tous ceux parmi les commerçants et artisans qui trouvent que les travailleurs ne travaillent pas assez, parce qu'eux ne font pas les 35 heures, mais 45, 50 heures par semaine. Il s'adresse à cet électorat qui ne supporte pas que les travailleurs revendiquent et fassent grève et qui accuse les chômeurs, les jeunes sans travail, de vivre au crochet de la société. Sarkozy a sorti la grosse artillerie contre les chômeurs, contre les allocataires du RSA, qu'il accuse de ne pas vouloir se former, de ne pas vouloir se remettre au travail pour plaire à l'électorat le plus réactionnaire, de droite et de droite extrême. Hier soir, Sarkozy a sorti aussi la grosse artillerie contre les travailleurs immigrés. Il a utilisé les préjugés les plus abjects, les mensonges les plus grossiers, en présentant les vieux travailleurs immigrés comme des profiteurs d'allocations. Eux, que le patronat a exploités pendant des dizaines d'années, qu'il a usés sur les chaînes de production, dans le bâtiment, dans le nettoyage. Eh bien, les propos de Sarkozy sont insupportables. C'est insupportable, mais cela va durer les 2 mois de cette campagne électorale. Parce que Sarkozy veut récupérer les électeurs de 2007 qui sont aujourd'hui tentés par le vote Front National. Et puis Sarkozy essaye aussi de refaire le coup du président du peuple. Parce qu'il veut prendre des voix aussi du côté des ouvriers. Alors il essaye de nous refaire le coup de cette France qui se lève tôt. Mais il pourra visiter autant d'usines qu'il voudra. Pourra, s'il veut même enfiler un bleu de travail, ce n'est pas ce cirque qui en fera un candidat du peuple, parce qu'on en a soupé des promesses de Sarkozy. En 2007, Il avait promis de répartir les bénéfices à égalité entre les salariés, les actionnaires et les entreprises. C'était le fameux un tiers, un tiers, un tiers. Après cela, il a promis une prime de 1 000 euros qui est restée du vent pour la grande majorité des travailleurs. Mais, comme les promesses n'engagent que ceux qui y croient, eh bien Sarkozy continue. Et la semaine dernière, il a promis une augmentation sur les petits salaires. C'est bien sûr encore une escroquerie, parce que c'est une augmentation de salaire payée par les salariés eux-mêmes. Puisque d'une main, le gouvernement augmente les petits salaires, pendant que de l'autre, il supprime la prime pour l'emploi. Si Sarkozy revient au pouvoir, il faut au contraire s'attendre à des baisses de salaire. C'est ce que Sarkozy prépare au travers des fameux accords de compétitivité. Sarkozy veut donner la possibilité aux patrons de baisser le temps de travail, mais surtout de baisser les salaires, selon les aléas de l'économie. Que les patrons confrontés à une chute de l'activité baissent le temps de travail de chacun pour garder l'emploi de tous, ce ne sont pas les travailleurs qui s'en plaindront. Mais les salaires de tous doivent être garantis, parce que c'est au patronat d'assumer les hauts et les bas de sa propre économie. Nous, travailleurs, on ne peut pas accepter de perdre 200, 300 euros sur sa fiche de paye alors que les salaires sont déjà insuffisants. Si les patrons veulent réduire le coût de leurs produits, eh bien qu'ils diminuent la part consacrée aux actionnaires sous forme de dividendes, mais qu'ils ne touchent pas au salaire. Ami Bernard Arnault, une des premières fortunes du pays, et avec le rachat de Photowatt par son ami Proglio, le PDG d'EDF, Sarkozy a enfilé le costume de sauveteur d'entreprise. Si les travailleurs concernés ont réussi à obtenir un sursis, tant mieux pour eux. Mais cela ne fera pas oublier tous les autres travailleurs dont on ne parle pas. Ceux dont a parlé Farida, ici, confrontés au licenciement dans des petites entreprises. Alors, personne n'est dupe de ces visites d'entreprise. C'est le cirque électoral qui reprend. Et tout le monde se souvient que Sarkozy, en 2007, s'était engagé déjà auprès des travailleurs d'ArcelorMittal à sauver Gangrange et Gangrange à fermer. Et si pendant son mandat, Sarkozy s'est en effet occupé des usines et des ouvriers, eh bien c'était pour leur envoyer des CRS et traîner les ouvriers devant les tribunaux, comme il l'a fait à de multiples reprises contre les travailleurs de Continental, de Clairvoy. Hier soir, Sarkozy a déclaré vouloir taxer les groupes du CAC 40. Il y a deux semaines, il nous a déjà promis qu'il supprimera les parachutes dorés. Mais pendant tout son mandat, ce sont ces grands groupes capitalistes, ce sont ces plus riches qu'il a bichonnés. C'est eux qui ont eu droit aux milliards d'argent public. C'est à leur profit que Sarkozy a vidé les caisses de l'État. Alors, les travailleurs n'ont bien sûr rien à attendre de Sarkozy et de tous ses coups de bluff. Mais ils n'ont rien non plus à attendre de Hollande. Hollande ne veut rien imposer à la bourgeoisie. Il ne veut pas la contraindre à quoi que ce soit. C'est le grand patronat qui gouverne réellement, qui impose ses diktats. Mais Hollande ne veut le forcer à rien. Voilà pourquoi Hollande ne s'est pas engagé, par exemple, sur les salaires. Que ce soit sur la promesse des contrats de génération, sur la création des emplois dans l'éducation, ou même sur la retraite, eh bien Hollande s'en tient au strict minimum. Tout en expliquant en plus que ces maigres mesures sont conditionnées à la croissance et qu'il faudra payer la dette, d'abord et avant tout. Alors, si les travailleurs ont bien des raisons de vouloir se débarrasser de Sarkozy, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance à François Hollande. Il y a les discours autour de la fiscalité. Et en annonçant une tranche de 75% sur les revenus dépassant le 1 million d'euros, on peut dire que Hollande a eu son petit effet. Nous, qui voulons faire payer les riches pour tous les dégâts qu'ils causent, nous ne sommes bien sûr pas contre. Mais c'est une mesure très symbolique qui ne concernera qu'une poignée de très riches qui en plus trouveront mille et un moyens d'échapper aux griffes fiscales. fiscale. Et en réalité, pas plus sur ce terrain de la fiscalité que sur aucun autre, le Parti socialiste fait preuve d'audace. Sous Raffarin, en 2005, la tranche de l'impôt sur le revenu que Hollande veut monter à 45% était de 48%. Et elle était de 60% sous Giscard. Sous le même Giscard, l'impôt sur les bénéfices était de 50%, alors que Hollande n'imagine pas le monter à plus de 35% pour les grandes sociétés. Et pourtant, Giscard n'avait rien d'un bolchevique. Des variations de quelques pourcents sur les plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'ISF, comme si la justice fiscale en dépendait. Mais il ne peut pas y avoir, ne serait-ce qu'un début de justice fiscale, sans mettre fin à la TVA et à toutes les taxes indirectes qui l'accompagnent. La TVA, c'est l'impôt qui rapporte la moitié des recettes de l'État. Mais c'est l'impôt le plus injuste, parce qu'il est payé au même taux, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, et qui pèse même en proportion bien plus sur les pauvres qui consomment la totalité de leurs revenus. Alors la TVA, eh bien, elle devrait être supprimée. Et sa suppression devrait être compensée par une imposition plus forte sur les revenus du capital, c'est-à-dire sur les revenus de l'exploitation. On nous présente comme une grande idée de gauche que les revenus du capital soient taxés au même niveau que les revenus du travail. Mais la justice, la vraie justice, ce serait que seuls les revenus de l'exploitation soient taxés et que l'on supprime l'impôt sur les salaires. Ce ne serait qu'un rendu pour un volet. De cela, il n'en est évidemment pas question pour Hollande. Dans son discours du Bourget, Hollande s'en est pris à la finance. Mais une semaine plus tard, on l'a vu avec un tout autre langage vis-à-vis des marchés financiers. Il a au contraire essayé de donner des gages aux financiers de la City, en expliquant qu'il n'avait rien à craindre parce qu'en France, il n'y avait plus de communistes. Que cela plaise ou pas à ses partenaires du Parti communiste, qui ne demandent qu'à gouverner avec lui s'il est élu, n'est pas rentré en ligne de compte pour Hollande. Le problème de Hollande était d'expliquer clairement aux possédants que si les socialistes revenaient au pouvoir, ils ne gouverneraient pas à gauche. Et qu'ils seraient, comme à leur habitude, des gestionnaires loyaux et responsables. Et il a même tenu à rappeler que la gauche au pouvoir avait su très bien privatiser, et très bien libéraliser même, la finance. Et la semaine dernière, à l'occasion d'une visite à Londres, il a encore insisté auprès des financiers de la City, en expliquant « Mais non, je ne suis pas dangereux. » Eh bien, nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas été avertis. Si futur gouvernement socialiste il y a, il fera ce que la finance lui imposera. Et nul doute que si la crise s'aggrave, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, il imposera aux travailleurs les mêmes sacrifices imposés aujourd'hui aux travailleurs grecs, les amputations de salaires et de retraite, la démolition des services publics et le chômage forcé. On entend de tous les côtés qu'il faut battre Sarkozy et que cela ne peut pas être pire. Mais si, cela peut être pire parce que la crise peut se poursuivre et s'aggraver. Et que ce soit Hollande ou Sarkozy, eh bien les coups tomberont. Et si les coups viennent de la gauche, cela ne les rendra pas meilleurs. Alors, plutôt que de nous bercer d'illusions, préparons-nous plutôt à nous défendre par nous-mêmes. Ont appris à leurs dépens que l'arrivée de la gauche au pouvoir ne changeait rien pour eux. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de gauche, de droite, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas fait des causes pour eux. Y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand et de Jospin, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Alors, certains se disent que cela ne sert plus à rien d'aller voter. Mais si le vote ne peut pas changer la vie des travailleurs, eh bien il offre l'occasion d'exprimer sa colère. Pourquoi garder son poing dans sa poche et se taire quand on a l'occasion d'exprimer une colère consciente et d'exprimer son accord sur un programme de lutte? Et puis parmi les plus amers, parmi les plus désorientés, il y en a même dans les classes populaires qui seraient tentés de voter Front National. On les a tous essayés sans peine, disent-ils. Et ils se trompent, parce qu'avec Sarkozy au pouvoir, on a eu la politique de la droite extrême. Le Pen n'est pas au gouvernement, mais avec Guéant et Sarkozy, une partie de sa politique y est déjà. Croire que l'on peut rejeter tous les hommes politiques en votant pour le Front National, c'est se tromper lourdement. Marine Le Pen veut, comme les autres, aller à la Montjoie. Elle pense avoir trouvé un créneau porteur, un créneau abject, qui s'appuie sur les préjugés racistes et chauvins pour se faire une place dans le système. Mais elle est comme les autres. Marine Le Pen est une défenseure des riches, de la propriété, une défenseure de la société telle qu'elle est, avec l'exploitation capitaliste, avec ses inégalités et avec ses injustices. Le Front National vise à affaiblir les travailleurs, à les diviser, en jetant en pâture nos camarades, les travailleurs immigrés. Eh bien, rien que cela fait de Marine Le Pen une ennemie mortelle pour la classe ouvrière. L'extrême droite associée au pouvoir, ce serait la classe ouvrière mise au pas. Parce que les travailleurs, Marine Le Pen les aime. Mais elle les aime comme le patronat les aime, avec le doigt sur la couture du pantalon. Marine Le Pen s'adresse aux travailleurs résignés et désespérés. Mais quand les travailleurs se battent, quand ils font grève, c'est la première à hurler avec les loups. Alors voter Le Pen signifie rejoindre, ne serait-ce que par le bulletin de vote, la cohorte des nostalgiques des guerres coloniales, les calotins en tout genre, les ennemis avérés de la classe ouvrière, et ceux qui veulent tirer toute la société en arrière. Eh bien, pour les travailleurs conscients, il ne peut pas en être question. Je serai peut-être la seule à le dire, alors je ne m'en priverai pas. Notre avenir à nous, le monde du travail, n'est pas au fond des urnes. Quel que soit le futur élu, nous devons nous préparer à nous défendre, à nous battre pour imposer nos intérêts vitaux. Et pour préparer l'avenir, eh bien, il nous faut un programme de lutte. Le premier objectif, c'est d'abord et avant tout imposer l'interdiction des licenciements. Dès que les commandes et l'activité diminuent du fait de la crise, et même que le patronat anticipe une petite baisse de la production, eh bien, il renvoie les intérimaires. Les CDD, il supprime des emplois, il aggrave les conditions de travail pour tous ceux qui restent. Le patronat maintient le même niveau de rentabilité de profit malgré la crise, parce qu'il se sert des travailleurs, de leur emploi et de leur salaire pour amortir les pertes. Eh bien, s'il y a moins de travail à faire, il faut forcer le patronat à le répartir entre tous les travailleurs, qu'il baisse les cadences, qu'il diminue les horaires, mais qu'ils gardent tous les travailleurs et qu'ils garantissent les salaires, qu'ils partagent le travail sur tous et que l'on maintienne le salaire à 100%. Et puis, il faut embaucher dans les services publics. Il suffit d'écouter le personnel hospitalier surchargé, les infirmières, les aides-soignantes, incapables de prendre leur jour de repos, pour comprendre qu'il faut embaucher dans les hôpitaux et répartir le travail. Oui, il y a de quoi embaucher aussi dans les écoles, à la poste, dans les transports. Et il faudrait même développer de nouveaux services publics. Parmi les domaines où la défaillance du secteur privé est manifeste et dramatique par les temps qui courent, il y a le domaine du logement. Chaque année, à la même période, on a le cœur déchiré de voir ces femmes et ces hommes à la rue, forcés de dormir dans leur voiture ou dans des taudis à peine chauffés. Et c'est d'autant plus révoltant que le problème ne date pas d'hier. Et c'est d'autant plus révoltant que la solution est tout à fait à la portée de l'État. Pourquoi ? Alors que l'État supporte, par exemple, l'essentiel des dépenses de l'industrie privée de l'armement. Et savez-vous que le programme du Rafale nous aura coûté à nous tous contribuables 40 milliards d'euros. Pourquoi ? Alors que l'État coupe l'argent pour cela, il ne trouverait pas de quoi préempter les terrains et développer son propre service de construction en embauchant directement les maçons, les ingénieurs, les architectes. L'État pourrait le faire directement, sans en passer par les marchands de béton et autres spécialistes de fausses factures. Voilà comment on pourrait construire le million de logements qu'il manque aujourd'hui cruellement dans le pays. Il faut aussi imposer des augmentations de salaire et des augmentations des pensions de retraite, et obtenir leur indexation sur les prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Ces dernières années, tous les prix ont augmenté. Depuis 2005, le gaz, à lui seul, a augmenté de 60%. Au 1er janvier, le gouvernement s'est vanté parce que l'augmentation du gaz ne serait que de 4,5%. Mais quel est le salaire, l'allocation ou la pension de retraite qui a augmenté de 4,5%? Et à cela, eh bien, il faut rajouter l'augmentation des loyers, des charges, du carburant. Et puis c'est sur la santé. C'est sur la santé que le gouvernement a imposé les sacrifices les plus lourds. Les franchises médicales, les déremboursements de médicaments se multiplient, à tel point que se soigner devient aujourd'hui difficile pour beaucoup. Et il n'y a que Sarkozy pour dire que l'inflation n'est pas un problème. Même les patrons le disent. À commencer par les patrons de péage d'autoroute qui ont justifié le relèvement de leurs tarifs justement par l'inflation. Dans la réalité, tous les groupes capitalistes s'appliquent à eux-mêmes l'échelle mobile. Dès qu'ils subissent une hausse de leurs achats, eh bien ils la répercutent sur les prix. C'est facile pour eux, puisqu'ils fixent eux-mêmes leurs prix. Ils peuvent les adapter comme ils veulent. Il n'y a que les travailleurs qui ne sont pas maîtres de leurs revenus. Ils ne décident ni de leur salaire, ni de leur pension de retraite. Alors, à chaque hausse de prix, eh bien, il faut que les salaires, comme les retraites, comme le RSA, comme les allocations logement familial, comme l'allocation adulte handicapé, augmentent automatiquement. Pour ne pas se laisser appauvrir quand tous les prix augmentent, eh bien, il faut remettre d'actualité la lutte pour l'échelle mobile des salaires. Augmenter les salaires, ce n'est pas possible, que le pays a un problème de compétitivité. Les mêmes qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus cotiser pour la santé, pour la famille, pour les retraites, versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Ils versent des dizaines de millions aux grands actionnaires, millions qui seront ensuite dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Eh bien, il faut que la lumière soit faite sur l'argent qu'il y a réellement dans les entreprises. Les travailleurs ont le droit de connaître ce que l'entreprise verse en salaire, ce qu'elle économise du fait des multiples exonérations de cotisations sociales, des niches fiscales, ce que l'entreprise verse en dividendes à ses actionnaires, ce qu'elle met en provision. Les patrons nous rabâchent que les travailleurs coûtent très cher. Mais combien leur rapporte un salarié et combien leur coûte un actionnaire? Toute la société a intérêt à ces contrôles. Parce que les grosses entreprises ne se contentent pas d'exploiter leurs ouvriers, elles veulent aussi des consommateurs, leurs fournisseurs, leurs clients quand ils sont moins puissants. Eh bien, il faut que l'on puisse tout connaître, des conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, y compris les dessous de table. C'est un objectif qui doit réunir les travailleurs des villes et les travailleurs des campagnes. Il arrive quelquefois aux petits paysans, étranglés par les prix trop bas proposés par la grande distribution, de faire des actions pour montrer la différence entre le prix que les grandes chaînes leur versent et le prix auquel achète le consommateur. Eh bien, ce sont des initiatives dont les travailleurs doivent s'inspirer, parce que les salariés ont infiniment plus de possibilités encore que les petits paysans pour procéder à ce type de contrôle au jour le jour. Ils sont en position pour dévoiler les petites et grandes magouilles et pour montrer le vol à grande échelle qui caractérise l'activité économique de ces grands groupes capitalistes. Et plus qu'un droit au contrôle, Il faudrait même parler de devoir civique. Parce que c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. Ceux perpétrés par les banquiers et les spéculateurs irresponsables. Mais ceux aussi perpétrés par ces patrons qui sont prêts à sacrifier la santé de leurs salariés au nom de la rentabilité. Comme ce fut le cas de ces patrons qui ont empoisonné des dizaines de milliers de travailleurs avec l'amiante. Enlevant le secret bancaire et commercial, on permettrait aux comptables, aux secrétaires, aux magasiniers, à tous les travailleurs de divulguer les informations qu'ils ont. Les salariés sont souvent les premiers à tirer la sonnette d'alarme, simplement parce qu'ils sont aux premières loges et qu'ils voient ce qui se passe. Alors, il faut leur donner les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Cette mesure serait une revendication essentielle lors d'une lutte générale, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs et des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. Oui, ce serait un premier pas pour contester le pouvoir de direction de la bourgeoisie, un premier pas pour contester la dictature du grand capital. Nous ne doutons pas que la situation poussera tôt ou tard des millions de femmes et d'hommes dans la rue. Mais la colère et la détermination ne suffiront pas pour gagner. Il faut encore que les travailleurs sachent pour quels objectifs ils peuvent se battre et pour quelle politique. Populariser ce programme de lutte est la meilleure façon de préparer les luttes qui sont à venir. Et chose importante, dans cette lutte, nous pouvons compter sur nos frères, les travailleurs immigrés. Les politiciens de la bourgeoisie continuent de débattre entre ceux qui rejettent l'idée même d'accorder le droit de vote aux travailleurs immigrés, ceux qui sont pour le leur accorder, mais seulement pour les élections municipales. Eh bien, c'est honteux. Bien sûr que tous ceux qui vivent, travaillent et se font exploiter ici devraient avoir le droit de vote, et ce, dans toutes les élections. Mais les réactionnaires de droite et de gauche qui s'opposent à cette idée et qui s'opposent à la régularisation de tous les sans-papiers ne l'emporteront pas au paradis des urnes, parce qu'en cas de grande lutte, eh bien, tous les travailleurs se retrouveront côte à côte, français ou immigrés, avec ou sans papier. Ils se retrouveront dans la même fraternité de la lutte collective, de la lutte des travailleurs de toutes origines et de toutes nationalités contre les capitalistes de toutes nationalités. Dans ces luttes, la jeunesse qui a toujours été à la pointe de la contestation aura un rôle majeur à jouer. Alors dans cette campagne, je m'adresse aussi aux jeunes, à tous ces jeunes de quartiers populaires qui, après avoir été exclus de l'école trop tôt, sont baladés de petits boulots en longue période de chômage. Et ils savent que la vie de leurs parents n'a pas été rose, mais qu'avec la crise et avec le chômage, ils se disent que pour eux, ce sera encore pire. Je veux m'adresser aussi à tous les jeunes des quartiers populaires qui subissent le contrôle aux faciès, qui sont marginalisés et accusés à longueur de journée de tous les maux de la société. Aux jeunes diplômés aussi, qui rêvent peut-être d'une carrière à la Steve Jobs ou à la Bill Gates, mais que la réalité cloue au comptoir d'un McDo ou à la caisse du supermarché. Eh bien, je dis à tous ces jeunes qu'ils ont raison d'être révoltés. Qu'est-ce que c'est que cette société où une minorité peut gagner sur une bonne affaire en quelques jours, ce que ne gagnera jamais aucun salarié toute sa vie durant? Et qu'est-ce que c'est que cette société où on trouve des milliards pour les banquiers, pour les marchands d'armes, et où on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour construire des logements, pour construire des écoles et des hôpitaux? Qu'est-ce que c'est que cette société où l'argent, les profits, le luxe comptent plus que la vie humaine? Alors oui, cette société fonctionne à l'envers. Et elle est condamnée à disparaître. Mais elle ne disparaîtra pas toute seule. Il faut des jeunes qui sont conscients du combat à mener. Il faut des jeunes qui ne s'arrête pas aux différences de religion, de sexe, d'origine, de couleur de peau, aux différences de métier, qui ne s'arrête pas aux différences parce que les uns sont au chômage alors que les autres sont encore au travail. Il faut des jeunes conscients de partager un sort commun, conscients de faire partie d'une seule et même classe exploitée, capables de changer la société. Transformation de la société en profondeur, aucun grand progrès pour les travailleurs n'est venu des gouvernements. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leurs manifestations. Il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Les victoires, ils les ont toutes gagnées, de hautes luttes. Mais plus on approchera des élections, et plus on nous fera croire que notre sort dépend du bulletin que chacun glissera dans l'urne. Et il y a déjà une pression, implicite ou explicite, sur l'électorat de gauche pour le vote utile, c'est-à-dire le vote en faveur de Hollande dès le premier tour. Que ceux qui sont convaincus par Hollande votent pour lui, c'est dans l'ordre des choses. Mais ceux qui ne lui font pas confiance, et ceux qui ont encore en mémoire et sur le cœur les déceptions laissées par le Parti Socialiste chaque fois qu'il a gouverné, n'ont aucune raison de voter pour lui au premier tour. Ceux qui ont compris que Hollande fera ce que le patronat exigera de lui et qu'il les laissera seuls face à leur patron, n'ont aucune raison de voter pour Hollande au premier tour. Il faut que Hollande sache que même si la haine vis-à-vis de Sarkozy lui a permis d'être élu au second tour, eh bien une fraction de l'électorat ouvrier ne lui fait aucune confiance. Quant à Mélenchon, il attirera un certain nombre d'électeurs de l'électorat populaire critique justement vis-à-vis de Hollande. Ces airs de tribun, ces envolées médiatiques contre les puissances de l'argent peuvent plaire. Mais tout cela, c'est pour nous faire croire que le salut pour les travailleurs viendra d'un changement de gouvernement. Et Mélenchon ne s'en cache pas, son modèle en la matière, c'est le gouvernement Mitterrand. Mais combien de travailleurs ont placé leurs espoirs dans Mitterrand, qui promettait de changer la vie, qui promettait même la rupture avec le capitalisme? Et combien parmi eux se sont sentis trahi parce qu'il a fini par se comporter comme n'importe quel patron, en bloquant les salaires, en licenciant à tour de bras dans la sidérurgie et même en glorifiant la bourse. Alors, des faiseurs d'illusions gouvernementales, il y en a toujours eu. Et toute notre politique consiste à les dévoiler auprès des travailleurs, à les prévenir des mauvais coups et des désillusions, et à les armer politiquement pour affronter l'avenir. Je serai la seule dans cette élection à ne pas dire « Votez pour moi, je ferai ceci, je ferai cela, et tout ira mieux pour vous. » Non. Voter pour ma candidature aura une autre signification. Ce sera exprimer la conviction que si les élections ne peuvent pas changer la vie, eh bien la lutte collective des exploités en a la force et la possibilité. Ma candidature, c'est affirmer qu'on n'est pas dupe devant les alternances électorales. Voter pour ma candidature, c'est affirmer qu'il y a parmi les travailleurs, des femmes et des hommes qui savent que quel que soit le futur gouvernement, ils se retrouveront seuls face au diktat patronal et qu'ils doivent se préparer à se défendre. Bien sûr, le vote ne remplace pas les luttes, mais les luttes se préparent dans les têtes. Et on peut contribuer à les préparer dans les têtes de ceux qui nous entourent en popularisant un programme, des objectifs autour desquels on peut s'unir et se battre pour que les luttes futures ne soient pas dévoyées, emmenées dans des voies de garage qui ne changent pas le rapport de force entre la classe possédante et la classe des exploités. Les travailleurs doivent savoir pourquoi se battre et contre qui. Si, dans cette élection présidentielle, nous nous retrouvons plusieurs centaines de milliers autour de ce programme de lutte, ce sera un pas considérable qui préparera la suite, qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les luttes. Oui, ce sera un vote utile. Alors, camarades et amis, en vous aidant dans cette campagne électorale, vous participerez à notre combat commun, à la propagation de toutes ces idées et de ces objectifs qui seront décisifs en cas de remontée des luttes. Votez et faites voter pour ma candidature et une fois l'élection terminée, continuons ensemble ce combat.